l'odeur d'un café, des pâtes qui cuisent doucement, c'est le contexte de notre lorgnette de ce soir. Des familles, des parents, des enfants plus ou moins grands et des accueillants. Psychologues, psychanalystes, psychomotriciens qui accueillent la parole. La cuisine, un lieu de confidence où l'on dit plus facilement les choses. C'est ce que proposent les Pâtes au beurre, association née à Nantes en 1999, créée par une psychologue, et qui a depuis essaimé en France, dont à Blois, depuis plus d'un an. Nous parlons donc parentalité, lien avec nos proches ce soir, avec nos quatre invités autour de la table. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette lorgnette autour de la table. Donc beaucoup de monde ce soir, on est heureux de vous accueillir. Je vous laisse vous présenter, on commence par Jean.
Oui, allez-y. Je suis au bureau de l'association Les Pâtes au beurre et secrétaire.
Yann.
Bonjour, donc moi j'interviens au Pâtes au beurre en tant qu'intervenant.
Marie.
Bonjour, eh ben, je suis psychologue et accueillante aussi au Pâtes au beurre.
Et Françoise.
Et je fais partie du bureau des Pâtes au beurre, je fais de l'administration.
Donc les Pâtes au beurre, ce sont ces espaces gratuits, anonymes, accessibles à toutes et tous, sans rendez-vous. Vous êtes situé à Blois.
Au 12-14 avenue de Vendôme, c'est un choix volontaire de ne pas se situer dans les quartiers nord ou en centre-ville, car nous considérons que des difficultés avec les enfants, il y en a dans tous les milieux. Et dans tous les secteurs.
Vous avez créé l'association il y a plus d'un an maintenant. Comment s'est fait cette création? Comment vous tous, vous avez connu les Pâtes au beurre?
Le projet, en fait, commence il y a 2 ans exactement, où on est quelques professionnels, voilà, des psychologues, des psychomotriciens, des psychanalystes, et qu'on travaille à ce moment-là, que ce soit en institution ou en libéral, on rencontre des parents qui sont en difficulté, qui ont des questionnements et qu'il faudrait accueillir tout de suite maintenant, mais on peut pas parce qu'il y a des listes d'attente qui sont très très importantes. Ça, c'est un constat quand même qui est fait partout, et on voulait pouvoir être présent tout de suite pour eux, au moment où ils en ont besoin. Et donc, on avait tous en tête cette question des pâtes au beurre qui avait été créée par Sophie Marinopoulos. Donc, on décide de se rapprocher d'elle pour créer une antenne à Blois, qui verra le jour, la première permanence, en février 2023.
Oui, c'était ça. C'était un petit groupe. Voilà, on devait être 4 ou 5, je crois, oui. Au démarrage. Oui. Et puis, ça a démarré sur un collègue qui envoie un mail de... Voilà, on a déjà parlé des pâtes au beurre ensemble. Et si on y réfléchissait un peu plus pour monter ça à Blois. Donc ça, ouais, c'était à peu près en décembre 2022. Mm-hmm. Et puis de là, on a pris contact un peu avec la Fédération des pâtes au beurre. Et puis, les choses se sont enchaînées.
Donc, vous proposez des permanences. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le planning chaque semaine des permanences?
Alors, il y a 4 permanences, le lundi de 17h30 à 19h30, le mardi de 17h30 à 19h30.
À partir des vacances scolaires de la Toussaint.
Voilà. Et puis le mercredi de 15h à 17h et le jeudi matin de 10h à midi.
Combien de personnes y a-t-il au Pâtes au beurre à Blois et qui font vivre les permanences et l'association ?
Alors, au niveau des accueillants, on est 7 accueillants, on fonctionne par binôme, c'est-à-dire qu'on est toujours deux professionnels du soin psychique à accueillir les parents quand ils poussent la porte. Et alors, au niveau du bureau ?
Au niveau du bureau, on est 4 bénévoles à assurer un peu le quotidien, mais il y a un conseil d'administration de 14 personnes qui se réunit 2 fois par an.
Alors, que viennent chercher à la fois les familles, les parents, et puis aussi peut-être du côté des enfants, des adolescents qui viennent aussi avec leur famille? Qu'est-ce que viennent chercher les gens au Pâtes au beurre?
Alors, peut-être, ça me fait penser qu'au démarrage, on propose donc 4 permanences qui sont donc anonymes, gratuites. Et sans rendez-vous, donc il y a déjà cette ouverture. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils viennent, même s'ils n'ont pas tout à fait le dispositif en tête, ils savent qu'ils peuvent venir de manière un peu libre, juste parce qu'ils ont envie de venir nous voir. Bon, il y a quelque chose qui les amène à venir nous voir. Évidemment, il y a une question, un tracas, une intranquillité. mobilité, enfin, tout un tas de raisons, mais disons que je crois que les gens qui viennent nous voir ont un peu en tête que c'est un lieu de parole assez libre. Ils ont un peu en tête quand même l'idée qu'il n'y a pas quelque chose de complètement identifié, nécessaire pour pousser la porte.
Je le disais en introduction, le lieu emblématique, c'est la cuisine. Alors pourquoi la cuisine, ce lieu si ordinaire, peut devenir un peu extraordinaire et faire naître la parole avec des gens qu'on ne connaît pas à la base?
Bah, c'est un peu ce que vous dites, en effet, c'est que la cuisine, c'est un lieu ordinaire, commun de la vie quotidienne. Tout le monde a une cuisine un peu en tête, qu'elle soit de, je sais pas, 30 mètres carrés ou de 2 mètres carrés. Enfin, voilà, en général, dans la vie, il y a toujours une cuisine qui est là. C'est un lieu où une famille se croise, quels que soient les âges, à plusieurs moments de la journée. Donc, c'est vraiment un lieu commun. Donc, il y a cette logique-là. En fait, Sophie Marinopoulos, elle a eu cette idée de, j'ai envie de dire, un petit peu de désacraliser peut-être le bureau du psychologue classique et de pouvoir offrir un espace un peu commun qui permet de se raconter déjà un peu autrement. Et puis, ce qu'il y a en arrière-plan, c'est que dans une cuisine, en général, on s'y retrouve à plusieurs. Alors, plusieurs qui n'est pas défini. Soit on est toute la famille entière, soit il y en a un qui est absent. Donc, au Pâte au Beurre, il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, ils peuvent trouver déjà quelqu'un qui est là, en conversation, et s'y installe. Comme ils peuvent arriver dans une cuisine, alors pas tout à fait vide, parce que nous, on est là. Il y a toujours deux accueillants qui sont là. Mais voilà, c'est multiple, en fait. La question de la cuisine.
Françoise et Jean, vous qui faites partie du bureau, est-ce que vous-même vous êtes accueillant également?
Alors non, les accueillants sont des professionnels diplômés, psychologues, ayant une expérience de clinicien. Et donc ça, c'est très important et c'est pour ça qu'ils sont payés. Enfin, qu'ils interviennent dans un cadre professionnel. Ça ne les empêche pas de faire du bénévolat par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'équipe participe à distribuer des flyers, à faire une émission de radio, faire des permanences dans les écoles. Donc ça, toute l'équipe le fait bénévolement. Par contre, la notion d'accueil pendant les heures dont on vous a parlé tout à l'heure, ça, c'est par des personnes qui sont rémunérées dans un cadre d'un métier qui est la psychologie.
Il faudrait préciser que à Blois, on est la seule antenne Pâte au Beurre qui apporte une troisième heure. Après les deux heures d'accueil, les deux accueillants restent et une personne vient bénévolement, une personne de l'équipe, soit accueillant, soit administrateur, vient pour écouter, pour que les accueillants puissent parler de ce qui s'est passé pendant ces deux heures d'accueil.
Vous êtes un peu le psychologue des psychologues, alors, dans ce cas-là.
On pourrait dire ça un peu comme ça.
Ça permet en fait aux deux personnes de faire un retour sur ce qu'ils ont vécu, puisque c'est quand même une expérience assez particulière, le fait d'accueillir plusieurs familles en même temps. Et il y a besoin effectivement de pouvoir en parler, de pouvoir évoluer avec ces personnes.
Alors on a commencé à esquisser ce que viennent chercher les personnes, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets pour que ce soit plus parlant, bien sûr sans évoquer des personnes en particulier, mais des grandes problématiques que vous retrouvez souvent?
Ce qu'on peut dire, c'est que la question des pâtes au beurre, c'est la question des liens familiaux. Et les liens familiaux, ils ont différentes façons de se faire et de se défaire tout au long de la vie et suivant les âges. Donc, par exemple, ça peut être des choses du côté de comment se séparer ou se retrouver pour un jeune enfant avec ses parents. Ça peut être des questions du côté d'une difficulté à s'endormir ou une forme d'agitation qui commence un petit peu à créer du débordement dans un vécu parental. Enfin, c'est toutes les choses, j'ai envie de dire, un peu de la vie quotidienne qui racontent la difficulté par moment d'être en lien avec l'autre, respecter l'autorité.
Arrêter les écrans.
Oui, ça peut être la question aussi, la question des écrans.
L'alimentation.
Et puis c'est la question de, enfin, être parent, on sait bien que quand on écoute les parents, que c'est jamais gagné, c'est toute une histoire, ça amène plein de questions, des doutes, et les pâtes au beurre sont aussi là pour ça, pour éventuellement, même s'il n'y a pas un symptôme massif, mais de pouvoir aller déposer quelque chose d'une lourdeur. Ça peut être aussi des temps passagers dans une famille. Il suffit qu'il y ait un deuil, quelque chose, on ne sait pas comment s'y prendre, on a besoin de simplement y réfléchir. Voilà, il peut y avoir toutes ces modalités de... pour pousser la porte des pâtes au beurre, en fait.
Et je crois aussi que ce qui se passe aux pâtes au beurre, en tout cas, nous, la philosophie avec laquelle on accueille les parents, c'est qu'on n'a pas d'idée préconçue du comment il faut faire. Hein. On voit quand même beaucoup de choses hein, sur un kit du parent parfait et de, voilà, un peu des fois des idées toutes faites. Et nous, on essaye de déconstruire ça et vraiment d'accueillir le parent là où il en est, parce qu'en fait, il sait beaucoup mieux que nous. Ce qu'il faut faire et comment faire. Et donc, par moments, c'est des temps où on prend le temps d'écouter ce qui se passe. Et rien que ça, ça peut les aider à trouver en eux, en fait, quelque chose, s'entendre raconter. Ah ben oui, ça, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est pouvoir proposer ces temps-là qui font qu'à l'intérieur de soi, on va pouvoir trouver des ressources.
Et on pourrait ajouter que le collectif est important pour ça. Parce que quelquefois, les parents peuvent trouver des solutions entre eux.
Le collectif, oui, c'est une question que je me posais. Est-ce que c'est pas difficile de parler de soi quand déjà on vient voir des professionnels qu'on ne connaît pas? C'est déjà un premier pas. Mais en sachant que c'est en public, avec des gros guillemets, dans une cuisine, mais public avec d'autres personnes qui sont là avec d'autres problématiques.
Ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire être un parmi les autres. C'est-à-dire, voilà, à la différence d'un face-à-face quand on a rendez-vous chez le psychologue ou voilà, on est tout seul. Là, il y a quelque chose aussi qui fait partie du partage, qui fait baisser la tension aussi. On n'est pas tout seul à traverser des choses qui sont compliquées. Et en tout cas, nous, dans nos expériences d'accueil collectif, on ne sent pas. Et puis, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. C'est-à-dire que nous, on ne va pas être à la recherche de quelque chose. Il y a des parents qui peuvent venir, qui vont passer, qui vont rester pas longtemps. Voilà, on n'est pas à les questionner pour qu'il y ait quelque chose qui soit dit.
Pour continuer un peu dans ce que dit Marie, enfin, je crois qu'il faut beaucoup insister sur le fait que les pâtes au beurre, c'est un lieu d'accueil. Donc, c'est-à-dire quelque chose, il y a tout un dispositif, comme on l'a un peu évoqué, que ce soit l'architecture du lieu, mais aussi l'architecture entre nous, de comment ça fonctionne, pour que ce soit un lieu d'accueil. C'est-à-dire qu'on laisse suffisamment d'ouverture aux gens qui viennent pour qu'ils aient le temps déjà de nous expliquer un peu pourquoi ils viennent. Donc ça, au démarrage, ce n'est pas forcément simple. Et puis, une fois que ce temps s'installe un peu, de commencer à réfléchir. Et dans ce que disait Marie, c'est ça qu'il faut soutenir. C'est le fait qu'on intervienne à deux et qu'il y ait plusieurs personnes autour de la table permet de se dégager d'une position que nous, on pourrait avoir, qu'on serait supposé savoir et avoir toutes les réponses. Parce qu'on est formé à la psychologie ou à la psychomotricité. Et en fait, ce dispositif un peu en commun, qui certes est sûrement pas très facile au démarrage, mais permet un peu de se dégager de ces notions-là et permet après aux gens d'être dans l'idée que on va essayer d'y réfléchir ensemble. On va essayer au moins de poser les questions, et rien que le fait de les poser, certaines réponses peuvent commencer à venir. Et ce qu'il y a, c'est que là, on vient chercher les réponses des gens, leurs réponses à eux. On ne vient pas leur dire comment il faudrait faire, c'est ce que Marie disait tout à l'heure. Et cet accueil collectif permet ça, en fait.
Il peut permettre aussi qu'il y ait un déplacement. On va avoir un parent qui vient, qui va exposer une difficulté, un autre parent arrive, et là, le premier parent qui lui était en difficulté va pouvoir changer de position et être celui qui écoute et celui qui va aussi aider. Et ça, ça a des effets restaurateurs qui sont très, très forts.
Vous avez proposé à deux personnes de témoigner sur en quoi les pâtes au beurre les enrichissent. Je vous propose d'écouter les deux témoignages et on se retrouve juste après.
Donc voilà, madame, vous venez à pâtes au beurre régulièrement et on se demandait ce que vous y trouviez.
C'est un endroit familial où on peut échanger sur les problèmes de la famille, des enfants. On peut venir aussi avec nos enfants pour échanger de leurs problèmes, qu'ils puissent s'ouvrir... un petit peu au monde. Et puis on vient quand on veut, quand on peut. sans rendez-vous et selon nos envies. Donc,
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous vous trouvez au Pâteau-Beurre?
C'est une association qui est riche et qui permet de mieux comprendre l'enfant. Donc de la naissance à 18 ans.
Donc c'est une super association qui permet de vraiment de mieux comprendre l'enfant, mieux nous comprendre aussi. Ouverte avec des professionnels vraiment super.
Est-ce que vous vous attendiez à ça, par exemple ?
Eh bien, je ne savais pas trop quoi m'attendre.
Oui.
Puisque je suis allée dans différentes associations pour mon fils. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre exactement pourquoi il était comme ça. Comment faire pour mieux l'aider, pour mieux l'accompagner, pour qu'il grandisse au mieux, dans les meilleures conditions, et pouvoir mieux appréhender le rôle de parent, qui n'est pas toujours évident.
Comment vous avez connu les Pâtes au Beurre ?
C'est à la mairie de Vendôme, ils ont le pôle petite enfance, qui m'a donné ses coordonnées pour pouvoir m'aider suite à la situation complexe où je me suis retrouvée sans assistante maternelle avec mon fils. Donc ça m'a bien aidée et Sam est ravi de venir ici dès qu'il peut.
Et on est ravis de le recevoir aussi. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose en plus ?
Eh ben, c'est une super association qui permet franchement, où il faut vraiment venir en cas de besoin. Vous pouvez venir seul, en couple, avec vos familles, pour toute personne qui rencontre ou pas des problèmes avec son enfant, son adolescent ou son futur enfant ou des membres de leur famille, jusqu'à 18 ans évidemment. Mais c'est vrai que même après, même si les enfants grandissent, ça reste des enfants. Ça reste nos enfants.
Tout à fait.
Et on peut rencontrer des situations compliquées. Et c'est vrai que rencontrer des professionnels qui sont à notre écoute et qui puissent nous aider sans nous juger, c'est extrêmement important, surtout à l'heure actuelle.
Merci beaucoup.
Et de rien.
Donc merci aux deux personnes qui ont accepté de témoigner. Dans le deuxième témoignage, on entend l'enfant qui est tout prêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand on est accueilli au Pâteau-Beurre, est-ce qu'on peut venir avec ses enfants et comment dans l'espace, je sais qu'il y a une organisation spéciale des lieux pour permettre un meilleur accueil. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors effectivement, on peut venir avec ses enfants. En fait, ce qui est vraiment important au Pâteau-Beurre, c'est on vient comme on a envie de venir, avec ou sans enfants. Et je ne sais pas si on l'a dit nos permanences, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que, et c'est ce que redit aussi la maman dans le deuxième témoignage, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mamans qui vont nous parler d'enfants qui sont grands, voilà, mais qui restent adultes, tout à fait. Ouais. Et donc, au niveau de l'organisation de l'espace, c'est vrai qu'on accueille les parents avec ou sans leurs enfants. Et on a un petit couloir qui distribue notre cuisine, là où on va s'installer pour prendre le temps de réfléchir et d'écouter. Et on a deux pièces qui sont juste à côté, c'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est très proche avec des jeux, des livres, voilà. Et puis une pièce qui va être un peu plus à distance des parents. Et là, on voit aussi comment, ce que tu disais tout à l'heure, Yann, la question de séparation et de retrouvailles, comment est-ce que ça se joue vraiment dans la réalité des déplacements des enfants ?
Tu en parlais tout à l'heure, Marie, de la volonté de créer les Pâteau-Beurre parce que la prise en charge aussi classique devenait compliquée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation de, voilà, quand on ressent le besoin de parler de nos liens familiaux, vers qui déjà on peut se tourner dans les structures existantes et pourquoi le problème de prise en charge aujourd'hui ?
Peut-être ce qu'on peut évoquer, c'est ce qu'on a ressenti au démarrage du projet, enfin ce qui nous a amené vers les Pâteau-Beurre. C'est drôle parce que ça fait un peu lien avec ce que Sophie Marinopoulos évoquait de son propre mouvement en 1999 à Nantes, c'est-à-dire qu'elle travaillait en CMPP, on était plusieurs aussi à travailler en CMPP, et on était...
CMPP, est-ce qu'on peut rappeler ?
Excusez-moi, Centre Médico-Psychopédagogique, c'est un lieu de soins en fait pour les enfants, en général de 2 ans jusqu'à 18 ans, où ils peuvent bénéficier de consultations en psychomotricité, orthophonie, psychologique ou psychiatre. Mais ce qu'il y a, c'est que rapidement, il y a des listes d'attente qui sont extrêmement longues. Et entre le moment où le parent appelle, par exemple, dans un lieu de soins pour inscrire son enfant pour qu'il puisse être reçu, et le moment où il est reçu, il peut y avoir un temps assez long qui se passe. Et déjà, Sophie Marinopoulos, en 1999, du côté de Nantes, voilà, ça la mettait un peu dans l'inconfort. C'est ce qu'elle explique sur ce temps, voilà. Qui laissait les familles et les enfants dans quelque chose d'un peu compliqué. Et puis on pouvait observer que certains symptômes, peut-être un petit peu banals au démarrage, bah, au bout de plusieurs mois, finissent par devenir un peu envahissants. Donc on avait aussi un peu ce sentiment-là. Et puis les pathobeurs s'inscrivent vraiment dans le champ de la prévention. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer en effet aux familles un lieu qui est la question des permanences chaque semaine qui est là, et ça s'entend dans le propos d'une des dames, c'est que on vient selon nos envies, c'est-à-dire que on sait qu'on peut venir au pathobeurre selon nos envies. On va pas trouver porte fermée, où on va pas nous dire maintenant faut repasser dans un mois ou la semaine prochaine parce que il y a des gens avant vous. Le registre de la prévention est ouvert avec cette notion de sans rendez-vous et de permanence ouverte.
Et vous-même, vous devez jouer avec cet imprévu et être très adaptable en fonction.
Oui. Bon, alors après voilà, on arrive à réguler le nombre de personnes qui viennent. On n'est pas obligé de faire porte-close à un moment parce que y a trop de personnes au mètre carré, on n'en est pas encore rendu là. Mais c'est ça qui est important, c'est que voilà, les gens viennent au moment où ils en ont envie. À la limite, un soir, y a une question qui reste dans la tête et il est 7h30, puis on a en tête les heures de permanence des pathobeurs, on se dit bah, c'est le moment, j'y vais. Les gens peuvent tout à fait suivre ce mouvement-là.
Une question peut-être un peu plus personnelle pour Jean et Françoise, vous qui n'êtes pas des professionnels de la profession. Qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez à ces questions-là et pourquoi vous les trouvez importantes?
Alors moi, je pourrais dire que j'ai travaillé pendant 20 ans en RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté dans les écoles, et que lors d'une journée de formation, j'avais eu la chance de rencontrer Sophie Marinopoulos il y a très longtemps. Du coup, j'ai tissé des liens avec elle. Je l'ai faite rentrer comme au comité scientifique de mon association. J'ai continué toujours à avoir des liens avec elle. Et je m'étais toujours dit que s'il y avait l'opportunité de créer une antenne pâte au beurre à Blois, ça m'intéresserait bien d'en être. Il se trouve que j'ai eu des liens également avec Frédéric Tagu, le président de notre association, lors d'un congrès qui s'est fait à Blois il y a 2 ans. Et on en a reparlé. Et voilà, ça a abouti.
Et Françoise?
Moi, j'ai été à la retraite. Donc, du coup, je travaillais dans le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et on est venu me chercher d'une certaine façon parce que j'avais une certaine compétence du fait de mon travail dans l'administration des associations, la comptabilité aussi. Donc, c'est des choses qui sont un peu très utiles pour... faire des demandes de subventions pour gérer un peu une association. Voilà, donc, plus personnellement, je suis grand-mère, j'ai 3 petits-enfants. donc, c'est quelque chose qui me parle. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je suis là.
Mais en effet, quand tu dis on est allé te chercher, c'est vrai, parce que pouvoir ouvrir les permanences des pâtes au beurre avec 7 professionnels qui sont salariés, il faut aller chercher des financements, et aller chercher ces financements 2024-2023, ça demande tout un travail assez pointu avec des dossiers assez précis à remplir. Ça se fait pas comme ça, et quand on a la chance d'avoir une Françoise qui maîtrise assez facilement ces sujets-là, c'est très très aidant pour que les financeurs nous suivent.
Je vous propose une pause musicale. On écoute le morceau Matiste de Ben Mazoué qui évoque la parentalité, et on se retrouve juste après.
Allons marcher, Matisse, pour te détourmenter. Allons parler, mon mon fils. Allons sentir l'été, je prête un vanon, ma tisse. Pouvoir tout régler, mais je vois tes pas qui glissent. Et je te propose de t'accrocher. J'ai de l'amour assez pour tout te pardonner. J'ai de l'amour assez pour t'aimer sans te juger. J'ai des clés, des solutions, des idées, des instructions. Mais pas de mode d'emploi. Ma tisse au chou, lapin, chat, sucre, mon petit délice. J'ai tout misé sur nous. Matisse au chou, lapin, chat, sucre, y a pas de notice du tout. Il faut rester debout. Allons marcher. Matisse, je te dirai ce que je sais. Quelques coups, quelques vis, quelques pièges à éviter. Je vais t'écouter, Matisse. Tu verras qu'en formulant, tu vas dessiner l'esquisse, la solution te concernant. J'ai de l'amour assez pour qu'on se marre. Tu sais, la vie, c'est pas percer, c'est juste bien se cerner. J'ai des clés, des solutions, des idées, des instructions. Mais pas de mode d'emploi. Matisse au chou, lapin, chat, sucre, mon petit délice, j'ai tout misé sur nous. Matisse au chou, lapin, chat, sucre, y a pas de notice du tout. Il faut rester debout. Matisse au chou, lapin, chat, sucre, mon petit délice. Pas de mode d'emploi, pas de règles du jeu, pas de code d'envoi, pas de maître des lieux, pas de mode d'emploi, pas de règles du jeu, non, pas de code d'envoi. Des lieux, pas de mode d'emploi, pas de règle du jeu, pas de code d'envoi, pas de maître des lieux, pas de mode d'emploi, pas de règle du jeu, pas de code d'envoi, pas de maître des lieux, pas de mode d'emploi, pas de règle du jeu, pas de code d'envoi, pas de maître des lieux, pas de mode d'emploi, pas de règle du jeu, pas de code d'envoi, pas de maître des lieux.
C'était Ben Mazuet avec le morceau Matisse dans la lorgnette de ce soir. Nous parlons des pâtes au beurre. Ben Mazuet le dit lui-même, pas de mode d'emploi, pas de règles du jeu pour être parent. La fondatrice des pâtes au beurre, Sophie Marinopoulos, se base beaucoup sur les travaux de Selma Freiberg qui dit elle-même « Prendre soin de l'enfant, c'est d'abord soigner la parentalité ». Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus ?
Oui, c'est vrai que sa phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est prendre soin, c'est ça, prendre soin des enfants, c'est prendre soin des parents et du lien qui les unisse. Et c'est notre porte d'entrée, la question du lien au niveau des pâtes au beurre, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les institutions, les lieux de soins, voilà, il y a la question du symptôme de l'enfant, on va emmener l'enfant, c'est lui qui va être reçu. Au pâtes au beurre, c'est le parent qui va être reçu et qui va parler du lien à son enfant. D'ailleurs, on peut voir hein, des enfants qui demandent à revenir et puis ils sont un peu tranquilles. Hein. Ils amènent, en fait, c'est eux qui amènent leurs parents parler aux pâtes au beurre et puis eux, ils vont jouer. Et il y a quelque chose là qui à mon avis, se trouve pas autre part.
Et comment on crée ce désir de communication, de communiquer chez le parent et chez l'enfant ? Outre tout le contexte dont on a parlé déjà, la mise en confiance par la par le lieu en lui-même.
C'est vrai qu'on se dit ça, qu'on essaye de créer une ambiance de parole.
Oui. Voilà. Il y a un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que le parent est accueilli, quelle que soit sa situation, sans jugement. Et la maman qui a témoigné tout à l'heure l'a dit, sans jugement. Mmh. Et je trouve ça important qu'elle l'ait repéré, justement, qu'elle n'était pas jugée. Et je pense que ça peut participer justement de la création du désir de vouloir revenir. Et puis les enfants, ils y trouvent leur compte probablement et en allant jouer dans une salle, en sachant que le parent n'est pas loin. Donc le lien est un peu distendu, mais il est toujours là. Et il a cette possibilité de jouer, de revenir voir, de repartir. Et ça peut participer de ce désir, je pense.
Comment le créer, ça me fait penser aussi au fait que je crois que les choses se jouent un peu naturellement, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à l'être humain qui, même bébé, enfin le bébé, cherche à s'adresser à l'adulte qui est en face. Il génère quelque chose. Donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui, très tôt, nous amène vers l'extérieur. Et je crois que bah, quand enfants et parents viennent au pâte au beurre, il y a déjà quelque chose. Ils ne viennent pas non plus par hasard. Donc il y a déjà quelque chose qui les pousse à venir. Donc assez facilement, finalement, même si c'est pour évoquer des choses pas toujours agréables ou difficiles, il y a cette impulsion à parler, à essayer de s'adresser, et là, donc, s'adresser à nous. Et c'est là où notre travail intervient, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en effet suffisamment disponible pour que, voilà, leur laisser ce sentiment qu'ils vont pouvoir commencer à parler, même s'ils ne trouvent pas tout à fait les mots, même si ça prend des tournures peut-être étranges pour eux. Mais je crois que les choses arrivent à s'organiser pour se raconter, en fait.
En discutant avec des proches, j'ai la sensation que les enfants sont de plus en plus conscients quand ils ont besoin de parler de quelque chose, d'un sujet, et de l'évoquer, et que de plus en plus d'enfants peuvent dire à leurs parents bah, « j'aurais besoin de parler de ça ». Est-ce que vous partagez aussi cet avis ?
Je crois qu'en effet, la place de l'enfant au sein de la cellule familiale a quand même pas mal évolué depuis 30-40 ans. Enfin, voilà, on a tous un peu en tête cette histoire de « les enfants ne parlent pas à table », par exemple. On a tous entendu ça, ça reste un peu dans l'imaginaire collectif. Maintenant, on n'est plus sur ce registre-là. En effet, on est plus dans une époque où tout individu autour de la table familiale, le soir, dans la cuisine ou dans la salle à manger, peut avoir son mot à dire. Bon, après, justement, c'est ça qui semble peut générer comment on s'ajuste, qui parle, à quel moment, comment on s'arrête de parler, comment on se coupe la parole. Voilà, donc en effet, la place de la parole de l'enfance a changé, a pris une autre place. Et je crois que ça amène des questions autant pour les parents que les professionnels.
Oui, et peut-être que globalement, on est quand même beaucoup plus sensibilité à ce que c'est que la vie psychique, la santé mentale. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose dont on y fait très attention maintenant, ce qui n'était pas le cas avant.
Et alors aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la santé psychique. Je me suis fait la réflexion aussi que quand on parle de santé psychologique, c'est plutôt positif. Enfin, on voit tout de suite les magazines, par exemple, de mode ou autres qui nous donnent des conseils pour aller mieux. Et quand on parle de santé mentale, tout de suite, c'est un côté plus plombant, enfin... Et est-ce que cette différence de vocabulaire, elle est légitime ou pas forcément ?
Pour moi, dans la question de la santé mentale, il y a une dimension plus du fonctionnement du cerveau. Voilà. Alors que pour la santé psychique ou psychologique, on va parler plus de monde interne, en fait. Voilà, tout ce qui va se référer à... Voilà, une vie intérieure. Alors, moi, c'est comme ça que je l'entends. Dans la santé mentale, il y a quelque chose...
un peu plus large pour moi.
C'est un peu à la mode, hein, le terme de santé mentale. Mmh. Et effectivement, comme les neurosciences ont le vent en poupe, on peut penser que c'est un peu lié, les deux.
Mmh. Après, du côté de la... Peut-être, pour moi, oui, il y a quelque chose d'un peu plus large du côté de la santé mentale. On peut plus facilement y mettre la place du corps, et pour nous, en tout cas, ça ne fait qu'un. Enfin, l'intérêt peut-être de la définition de la santé mentale, moins restrictive que la santé psychique, c'est que quand on pense à un enfant, ses pensées vont débuter d'abord avec le corps. D'abord, ce qui vient au monde, c'est le corps, c'est la sensorialité qui, au démarrage, est un peu désorganisée et nécessite qu'il y ait un adulte qui soit là justement pour accueillir ça et le porter à la fois de ses bras et aussi dans sa tête et avec les émotions. Et je crois que la santé mentale, elle fait référence à ça, c'est que le bien-être, il n'est pas qu'une histoire de pensée et qu'une histoire de psychisme. C'est aussi une question du côté du corps. Et nous, au pâte au beurre, avec tous ces enfants qui arrivent à leurs âges différents, on voit bien que le corps a toute sa place en fait, et qu'on ne peut pas penser leur santé psychique sans considérer la question du corps et de la sensorialité. Voilà, ça me fait penser à ça en fait, votre question.
Chaque semaine dans La Lorgnette, on propose une recommandation de film, podcast, documentaire ou livre autour de la thématique. Cette semaine, on vous propose d'écouter un extrait du film documentaire « Réparer les parents » qui est visible jusqu'au 19 octobre prochain sur la plateforme France Télévisions. Aujourd'hui, alors que la plupart des grossesses sont désirées, il devient presque inconvenant qu'une femme ou qu'un homme ressente angoisse et dépression lors de la naissance tant attendue de son bébé. À la surprise des nouveaux parents qui jusque-là allaient bien, l'arrivée d'un enfant peut faire ressurgir des douleurs ou des traumatismes enfouis. Ce documentaire s'intéresse à ces parents en difficulté et à celles et ceux qui les aident à apprivoiser ce nouveau rôle dans l'unité de périnatalité de l'hôpital du Mans. On écoute un extrait de ce documentaire.
J'étais pas prête à tout ça. C'est épuisant. C'est fatigant.
Quels sont les bons moments avec Paul ?
Il est rigolo. À côté de ça, quand il n'est pas dans l'opposition et qu'il est en train de tout répéter ce qu'on dit, qu'il est tout content de réussir à remettre ses chaussons, c'est chouette quoi, de le voir grandir. C'est tout le paradoxe, de toute façon, depuis qu'il est né, quoi. C'est aussi bien que c'est dur.
On s'est rencontrés même avant la naissance de Paul. Ouais. Il avait des angoisses qui étaient tout autres. Et c'est à ce moment-là qu'on avait décidé d'ensemble de commencer éventuellement un traitement pour vous permettre d'être mieux. Finalement, la naissance s'est bien déroulée. Un séjour à la maternité où vous avez pu être ensemble tous les trois, une belle rencontre. Et puis un retour à la maison où là, il a fallu apprivoiser pour vous aussi un nouvel environnement. Et là, dès cet instant-là, vous avez senti que les pleurs de Paul pouvaient vous déborder ?
Oui. Oui, parce que je pense que c'était 3 jours après la sortie de la maternité, la première fois qu'on a voulu sortir avec la poussette, on allait chez la sœur Maxime qui était à 5 minutes à pied. Et je me souviens que Paul pleurait, il hurlait là, dans son cosy, là, et je me souviens pareil de qu'on se dispute sur le trajet parce que Maxime il comprend pas que je sois comme ça en fait. Enfin moi je voulais faire demi-tour, j'étais trop mal quoi. Sauf que Maxime dit lui il voyait pas, pour lui il y avait un bébé qui pleurait mais qu'on allait bientôt arriver et ça allait passer.
Qu'est-ce que vous ressentiez ?
Moi c'était un surmontable quoi. Je sais pas, ça rallume tout plein de signaux d'alerte. J'ai beau savoir que le bébé il va bien, qu'il n'est pas en danger ou quoi, ça, je sais pas, ça clignote rouge quoi et ça me.
Ça provoque.
J'ai le cœur qui s'accélère. Puis j'arrive pas trop. Dans ces moments-là, je communique pas comme je le voudrais ou comme d'habitude quoi.
Voilà pour cet extrait de ce film documentaire de Amalia Escriva, Réparer les parents, qui est visible jusqu'au 19 octobre sur la plateforme de France Télévisions. C'est gratuit, il suffit de créer un compte. Est-ce que vous-même, vous avez des recommandations de choses à nous faire découvrir autour de la parentalité ?
Juste, en tout cas, ça donne envie de le voir, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses qui se racontent.
Oui.
Et là, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de prendre soin des enfants, c'est prendre soin de la parentalité. Par exemple, quand cette dame dit « c'est insurmontable », alors qu'elle évoque quelque chose d'assez commun, de faire 3 mètres ou un peu plus, mais prendre la poussette, il y a quelque chose de très anodin en soi. Mais elle dit bien qu'en termes de vécu, c'est insurmontable. Et voilà, la question des pâtes au beurre, c'est peut-être ça qu'on essaye d'aller chercher, c'est trouver, organiser la possibilité que les gens puissent raconter cet insurmontable dans un espace commun et qui serait logiquement anodin. Quoi. Non, par contre, en association d'idées, ça me faisait rire parce que tout à l'heure, là, on a entendu Ben Mazoué et je sais qu'il a fait un podcast avec Gaël Faye et puis Grand Corps Malade sur la question de la parentalité, où il récupère des gens ont écrit des lettres sur la question de la parentalité et puis ils se mettent en conversation tous les trois sur ce registre-là.
Amour jungle, si je me trompe pas.
Ouais, voilà. Voilà, c'était juste une association d'idées. Qu'est-ce qu'on avait à...
On avait le dernier livre de Sophie Marinopoulos qui s'appelle « Quels enfants laisserons-nous à notre planète ?» ou à la planète, je ne sais plus.
Le titre résume en lui-même, je pense, l'ouvrage.
C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Très bien.
On pourrait juste préciser deux choses. C'est qu'il existe le fil des pâtes au beurre qui fonctionne le lundi et le vendredi. Je n'ai pas les horaires précis. Mais c'est sur le site. Sur le site des pâtes au beurre, on retrouve toutes ces informations. Et également dire que depuis juin, nous organisons des accueils de professionnels.
Donc le fil des pâtes au beurre, c'est un accueil téléphonique, c'est ça ?
Tout à fait.
Quand les parents appellent quelqu'un, y a forcément quelqu'un au bout du fil qui peut être n'importe quel accueillant qui est dans toutes les antennes en France ou en Belgique.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin
En actualité locale, dans quelques temps, avec le festival BD Boom qui organise une journée professionnelle le vendredi, avant le week-end du festival. Le 22 novembre, cette année, le thème, c'est la parentalité. Et dans ce cadre-là, l'association BD Boom a invité l'association des pâtes au beurre à être présente pour parler un peu des pâtes au beurre, comme on l'a fait ce soir à votre antenne.
Merci beaucoup à tous les quatre. Françoise, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Juste dire merci à nos financeurs, sans qui nous ne pourrions pas fonctionner. Donc il y a la Caisse d'allocation familiale, la Ville de Blois, le contrat de ville cité éducative, le département de Loir-et-Cher, la délégation ARS de Loir-et-Cher, l'ADRETS, une fondation qui nous sert de mécène, LBPAM.
Très bien.
Et un merci aussi aux deux mamans pour leur témoignage.
Merci beaucoup. On termine cette lorgnette avec, comme chaque semaine, le journal de bord d'un élu local, de Gaël Bernard et Nicolas Orgelet. Cette semaine, c'est l'épisode 127 avec Cathy Savouret, adjointe à l'urbanisme de la ville de Tours, qui nous parle de la nature en ville, de la protection du patrimoine vivant, mais aussi de sa manière de travailler avec les promoteurs pour imposer une recherche de qualité sociale et environnementale dans les aménagements qui sont réalisés. Juste après, c'est la Roxette List avec Christophe et sa bande. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lorgnette. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur les ondes de Studio ZEF.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 127 avec notre invitée Cathy Savouret. C'est parti! Bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
Nicolas, on est toujours aux journées d'été écolo.
On est toujours sous notre arbre.
Ouais, c'est vrai qu'on est bien installé. Alors apparemment, il y aura du vent cet après-midi.
C'est un chêne rouge d'Amérique.
Tu te la pètes. Et du coup, on va avoir plein d'invités cet après-midi encore. Et on est très fiers d'accueillir Cathy Savouret, comme le verbe. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Cathy, t'es adjointe au grand projet urbain, à l'urbanisme, au foncier et à l'espace public pour la mairie de Tours ?
Oui, mairie de Tours.
D'accord.
Mairie écolo.
Oui, mairie écolo,
et
exactement.
Gauche.
Et de gauche. Et donc, on est ici à Tours d'ailleurs. On n'en a pas dit, hein, Nico. Les journées d'été sont accueillies à Tours cette année, c'est trop classe.
Dans notre région, c'est chouette.
Ouais, puis bienvenue sur l'île Balzac.
Ouais, moi c'est la première fois que je venais.
C'est une grande réussite, hein. Tout le monde ne cesse de le dire. Bravo pour l'organisation.
Ouais, c'est super joli. Donc, alors on parle de quoi ?
Eh ben on va parler d'urbanisme, évidemment, puisqu'on est avec l'adjointe à l'urbanisme. L'équivalent à Blois, ça serait Jérôme Bougeot dans cette délégation, qu'on n'a pas encore invité. Ça pourrait être intéressant après de l'inviter et d'échanger avec lui sur ça. Mais
Jérôme, on prend rendez-vous.
Voilà, on prend date. et en tout cas, ça n'empêche que dans mon mandat, dans notre mandat, on est confronté à ce genre de questions. Notamment, une des questions qui s'est posée pour nous, c'est la question de la place de l'arbre en ville. Comment on protège les arbres ? On a mis en place un barème de l'arbre qui prend en compte les aménités des arbres.
Les quoi ?
Les aménités apportées par un arbre, c'est-à-dire pas considérer que la valeur de l'arbre quand tu l'achètes en pépinière, mais la valeur qu'il apporte à ta ville en termes d'ombre, de sociabilité, d'amélioration de la qualité de l'air. Okay. Ça donne une valeur à ton arbre, son âge, son état phytosanitaire qui sera considéré. ce qui évite normalement un peu à ce que les gens le coupent. Enfin bref, mais pour autant, on n'y arrive pas très bien. Et on a eu plusieurs événements dans notre ville où on a eu des arbres très beaux, très vieux, qui ont été coupés ou par la société d'économie mixte ou par des privés. Quand t'arrive, c'est trop tard. Et toi, je crois que dans ta ville, tu as essayé d'agir sur ça, sur la qualité. Alors, je parle des arbres, c'est un axe, mais sur la qualité de tes projets, comment tu fais en sorte, par exemple, avec les promoteurs, de réussir à maintenir la qualité écologique, sociale du projet que tu imagines jusqu'au bout?
Alors déjà, c'est un travail que l'on fait en collaboration avec d'autres adjoints, notamment Betsa Beas, l'adjointe à la biodiversité et au patrimoine végétal. On est dans une ville où on n'oppose pas nature en ville et urbanisme. Moi, je dis toujours aux promoteurs, c'est pas parce qu'il y a des vides qu'il faut à tout prix mettre des pleins. Et d'autre part, arrêtons de considérer l'arbre comme du mobilier urbain. Un arbre n'est pas un mobilier urbain, c'est pas un lampadaire, c'est pas quelque chose que l'on déplace comme certains promoteurs nous le proposent. On va déplacer l'arbre. Ben non, un arbre, ça ne se déplace pas. Et on a élaboré un plan nature en ville. On a fait comme vous, c'est-à-dire qu'on a défini un barème d'aménité. Et on a décidé de travailler en amont avec les promoteurs. Alors, au-delà des arbres protégés dans notre plan local d'urbanisme, c'est plutôt de dire à chaque fois 80% de l'urbanisme, en fait, à Tours est fait par la promotion immobilière, par le privé. C'est historique. Il n'y a pas eu de politique foncière menée depuis de nombreuses années à Tours. Donc en fait, les promoteurs, bah, ils font comme dans toutes les villes, ils passent une promesse de vente avec un propriétaire privé, et puis vu les prix du foncier, ils essayent de rentabiliser au maximum, et donc d'utiliser les règles du plan local d'urbanisme au maximum, pour faire le maximum de mètres carrés constructibles. Donc nous, on a décidé d'une méthode qui avait déjà démarré avant nous, mais qu'on a beaucoup amplifiée, qui s'appelle la question des ateliers d'avant-projet. C'est-à-dire qu'avant tout dépôt de permis de construire, un promoteur et son architecte viennent nous voir et on reprend le projet à la base. La première chose, c'est qu'on identifie le lieu où il veut aller, sur lequel il s'intéresse. On va sur le site avec notre architecte conseil. Et si c'est un site qui est déjà pas mal végétalisé, on amène quelqu'un de la direction du patrimoine végétal. On va sur site et on voit les éléments qui sont nécessaires de protéger. Ça peut être un muret de clôture, ça peut être une haie végétale, ça peut être des grands sujets. Et selon l'importance du site, on peut être amené à dire ben non, non, ok, vous pourriez le faire, mais non, ne vous intéressez pas à cette parcelle parce qu'on n'a pas du tout envie de l'urbaniser. Et quand on décide de l'urbaniser, on va décider des arbres, par exemple, s'il y a des arbres sur une parcelle, les arbres qu'il va falloir conserver. C'est-à-dire, ce n'est pas les arbres qui s'adaptent à l'architecture, c'est l'architecture et l'implantation des bâtiments. Ce n'est pas le seul critère, mais c'en est un. L'arbre devient un invariant. Et comme je leur dis, vous ne démolissez pas la maison d'à côté, donc vous n'avez pas besoin de démolir l'arbre. C'est la même chose.
Ah ouais.
Donc voilà, donc ça, ces invariants-là, ils sont définis vraiment dès la première réunion avec le promoteur. À partir de là, on aura une réunion où on définit le programme. Qu'est-ce qu'on fait sur cette parcelle? Est-ce que c'est que du logement? Est-ce qu'on met des commerces? Quelles sont les vues que l'on veut conserver? Donc vraiment, on va définir est-ce que si c'est du logement, est-ce qu'on met une part de logement social ou d'accession sociale? Est-ce que c'est plutôt des logements? Quelle taille? Etc. Troisième réunion, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le programme, alors ça peut être la troisième, la quatrième, ils vont travailler sur la question des formes urbaines. Et pour ça, je leur demande des maquettes. Et la maquette, c'est pas que la maquette de la parcelle. C'est la maquette de la parcelle dans son environnement, puisqu'à Tours, c'est comme à Blois, on ne construit pas dans des champs de betteraves, on construit dans une ville déjà constituée. Et bien sûr, les arbres doivent être sur la maquette. Et ce qui nous intéresse, c'est pas que l'arbre, c'est la projection du houppier, c'est-à-dire l'ensemble de l'arbre, la projection sur le sol, plus 3 mètres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système racinaire est équivalent à tout le végétal que vous voyez en l'air. C'est-à-dire là, au-dessus de notre arbre, là, ben, les racines, elles vont jusqu'au bout des pointes...
Des branches.
Des branches. C'est pas que le tronc. Et en plus, on rajoute 3 mètres parce que votre arbre va continuer à grandir. Et c'est la distance de protection, en fait. Donc là, on se met d'accord sur la forme urbaine, c'est-à-dire la hauteur des constructions, le volume, l'épaisseur des bâtiments, est-ce que les logements sont traversants, enfin, ça, c'est une obligation, etc., etc. Et après, au dernier atelier seulement, on va parler d'architecture. Et on parle aussi d'usage dans les formes urbaines. C'est-à-dire que quand on parle du logement, quelle est la taille de l'extérieur? Est-ce qu'on essaye d'avoir des projets avec la fameuse pièce en plus? Comment vont être configurés les logements? Parce qu'il y a des fois, vous regardez les plans et vous dites, mais c'est pas possible là. Votre séjour, on ne peut pas mettre une table, un canapé, une télé, parce que les gens quand même continuent à avoir des télés, même si moi je ne la regarde pas. Comment ils font là? Et l'architecte vous dit, mais si, mais non, regardez, mais non, ça passe pas. Donc, retravaillez, monsieur. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Et après, dans le cas du chantier, et ça, on l'a imposé parce qu'on a eu, nous aussi, des dégâts, c'est-à-dire des promoteurs qui nous disaient, oui,
qui ont fait, ouais.
On protège, c'est bien au permis. Et puis, malheureusement, le jour du chantier, ah ouais, mais là, on va devoir couper.
C'est ce qui s'est passé rue de l'usine à gaz. C'est-à-dire, les arbres étaient censés être protégés, ils étaient censés être préservés dans le projet. Et en fait, l'usine de dépollution du site a enlevé les arbres. Et c'était fait, quoi.
Voilà. Et donc là, on demande maintenant, avant le démarrage du chantier, on demande la protection des arbres et on va sur site vérifier que la protection est bien faite. Et comme les habitants maintenant savent qu'on est attentif à ça,
ouais.
Souvent ils nous appellent.
Ah, c'est cool ça.
Voilà, en disant là il y a un problème.
Hey, Cathy, je ne sais pas si tu as vu la tête de Nico quand il t'écoute là, mais il a les yeux dans le vague. Il est en train de voir toutes les bonnes idées là. Je pense que ça te plaît beaucoup.
Bah oui, bah, nous on. Alors je ne sais pas si le champ. En tout cas sur l'espace public. C'est plutôt nos services en interne qui font dessinent beaucoup de choses et on a des services qui sont très compétents. En général, là où ils sont plutôt en pointe, c'est sur la GIEP, la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est-à-dire dire...
La gestion quoi ?
Gestion intégrée des eaux pluviales, c'est dire à un moment donné, sur chaque parcelle, quand tu construis un bâtiment, tu vas faire en sorte que l'eau de pluie qui tombe sur ta toiture et qui va descendre en bas de ta gouttière, au lieu de la renvoyer au réseau, ce qui crée après des surcharges de réseau et puis qui pollue une eau qui ne l'était pas, tu vas faire en sorte qu'elle s'infiltre sur la parcelle. Donc là aussi, ça t'oblige à gagner de l'espace parce qu'il va falloir créer des endroits où l'eau va pouvoir s'étaler et s'infiltrer. Nos services sont assez sensibles à ça et on sensibilise les architectes, les urbanistes beaucoup à cette question-là. Toutes nos places de parking vont être souvent pavées en herbe. Exactement ce que disait Cathy, c'est-à-dire ne pas vouloir remplir tous les vides et se dire souvent tu peux te dire aussi, utiliser que ce dont on a besoin et le reste on va se dire ben, pourquoi pas le végétaliser, le rendre à de la nature en creux.
Alors ça c'est quelque chose que l'on fait également, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, le plan local urbaniste prévoyait 15% de pleine terre sur une parcelle.
C'est-à-dire que de quoi ?
De pleine terre. C'est-à-dire il fallait que 15% de ta parcelle soit reste en pleine terre.
La pleine terre, le sol. Si ta terre elle est dans un bac, si par exemple tu plantes un arbre mais qu'il est dans un pot, c'est une terre qui est en l'air et qui du coup il va falloir que tu l'arroses toute l'année, sinon ça va sécher, ton arbre va mourir. Alors que quand tu es dans la terre du sol, là tu as de la biodiversité, des vers de terre et ton arbre il survit même sans que tu l'arroses en continu.
Donc le problème c'est que tu as des parkings en sous-sol qui sont plus larges que ton bâtiment et donc certes tu as de la terre mais que sur 60-50 cm c'est pas la pleine terre. Donc quand on parle de pleine terre, c'est, tu peux aller jusqu'à la croûte terrestre quoi. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui...
Au-dessus d'un parking souterrain, c'est comme un grand bac de jardin géant.
Voilà. Donc quand on est arrivé à la responsabilité, on a imposé 30% de pleine terre. Mais légalement, c'était pas écrit.
Oui, d'accord.
Mais ça a été une règle imposée en attendant qu'on puisse modifier le plan local d'urbanisme. Et ça prend toujours du temps, c'est toujours 18 mois. Mmh. Voilà. Donc ils l'ont appliqué, on l'a fait appliquer dès le départ en disant c'est comme ça, c'est un invariant. 30%, c'est pas légal, mais il va falloir le faire en attendant que ça soit légal. Et nous, on considère le 30% de pleine terre, c'est-à-dire on ne compte pas les parkings en dalle, on ne considère pas ça comme de la pleine terre. C'est perméable, mais ce n'est pas de la pleine terre. les cheminements, même s'ils sont en phalan, c'est perméable, mais c'est pas la pleine terre. Quand on dit 30% de pleine terre, c'est vraiment de la pleine terre.
La terre végétale.
La terre végétale où on peut planter. Et la métropole, ça c'est le règlement métropolitain, impose, nous on le demandait, mais là l'impose maintenant à tous les projets, l'infiltration à la parcelle. Ce qui nécessite pour les grands projets, où on demande à ce que les promoteurs et les architectes s'entourent d'un vrai cabinet de paysagistes, parce qu'un architecte, il ne sait pas faire, pour avoir un vrai projet paysager sur la parcelle, visé par nos propres services. Parce que là, c'est pareil, on a la chance, comme à vous, à Blois, d'avoir des services aussi bien à l'urbanisme qu'à la direction du patrimoine végétal et de la biodiversité, très, très compétents. Donc, tous nos projets... Et moi, quand je vous parle des réunions d'avant-projet, il y a les réunions auxquelles j'assiste, mais à côté, il y a de multiples réunions techniques où justement ces calages se font. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on se pose la question aujourd'hui, puisqu'on élabore le plan local d'urbanisme métropolitain, on est en train de se dire que nos 30%, bah, dans certains quartiers, c'est peut-être pas suffisant, il va falloir monter à 40%. Par contre, dans certains quartiers, notamment le centre-ville très dense, où les parcelles sont quasiment urbanisées à 100%, ben 30 c'est trop. Il va peut-être falloir descendre à 20 parce que si le tissu ne le permet pas. Donc là, on est en train, dans le cadre de la réflexion plan local d'urbanisme métropolitain, mais parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis en responsabilité, donc maintenant je suis capable, avec les services, de voir là où il faut aller plus loin, là où il faut aller moins loin, etc.
Alors nous, on a ça aussi, des obligations de pourcentage en pleine terre dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Après, pour autant, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que sur l'espace public, tu as vraiment la main. Tu fais ce que tu veux, c'est tes services qui dessinent, qui réalisent. Et encore, là aussi, on a des points d'amélioration. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à donner un projet à un architecte paysagiste qui va le dessiner. Il va faire l'esquisse, les grands schémas directeurs. Et puis après, on reprend en interne pour finir la conception et réaliser. Et l'autre sujet, c'est à chaque fois qu'on est sur une parcelle privée, c'est là que c'est le plus dur d'agir. Et ce qu'on aimerait mettre en place et dont on discute avec les services, c'est une charte d'aménagement durable. C'est une charte, c'est en gros un cahier des charges de base. Qu'est-ce qu'on va demander à chaque projet pour qu'il nous semble vertueux? Et peut-être que tu pourrais nous en reparler dans un autre épisode, parce que vous avez bien, ben toi, tu as bien travaillé là-dessus, ça touche à ses fruits. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de commencer à porter et à lancer avec Jérôme Bougeot et Hélène Menou. Il reste des adjoints, donc si tu es d'accord, on en reparle dans l'épisode suivant.
On fait
merci.
Ça
oui, pas de souci.
Ok, alors à la prochaine. Merci beaucoup.